Chers amis auditeurs, pèlerins présents dans la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial, bonsoir. Bonsoir à nos chères sœurs qui sont avec nous ce soir pour commencer ces nouvelles rencontres de Paray-le-Monial de ce mois de mars 2020. Dans la dynamique donc de cette année jubilaire de la canonisation de Marguerite Marie, ce mois-ci, effectivement, comme le Père Benoît vient de le dire, ce mois a été confié, l'animation a été confiée donc aux jésuites de Paray-le-Monial, mais aussi pour faire partager l'héritage des jésuites avec le Sacré-Cœur. C'est ce que nous allons déployer tout au long de ces prochains jours. Comment le charisme de la Compagnie de Jésus effectivement est lié au Sacré-Cœur avant même que la mission lui soit donnée formellement, vous le savez, par la dernière vision de Marguerite Marie le 2 juillet 1688, où elle entend la mission confiée aux sœurs de la Visitation et au Père de la Compagnie de Jésus. Nous entendrons, nous découvrirons comment voilà, cette mission confiée un jour du temps vient rejoindre ce qui anime profondément tout jésuite depuis qu'Ignace de Loyola s'est laissé lui-même toucher au cœur dans son itinéraire personnel. Mais ce soir, nous allons nous laisser conduire et introduire dans l'heure sainte qui suivra dans un peu plus de trois quarts d'heure, avec un compagnon de Jésus qui, toute sa vie, a été au service de la liturgie, avec le père Didier Rimaud. Je pense que certains d'entre vous le connaissent sans le connaître, le connaissent pour avoir chanté, prié certaines de ses hymnes, en se laissant porter par les textes de la liturgie, des rituels, des sacrements. Pour nous mettre en route, simplement écoutons un extrait de l'invitation que Jean-Paul II donnait aux jésuites lors de sa visite en 1986 à Paray-le-Monial. Au cœur du mot qu'il adressait à l'ensemble de la Compagnie de Jésus, le pape Jean-Paul II disait ceci: je désire vivement que vous poursuiviez par une action persévérante la diffusion du véritable culte du cœur du Christ et que vous soyez toujours prêts à apporter une aide efficace à mes frères dans l'épiscopat afin de promouvoir ce culte partout. Et écoutez bien la suite: en prenant soin de trouver les moyens les plus adaptés de le présenter et de le pratiquer, afin que l'homme d'aujourd'hui, avec sa mentalité et sa sensibilité propre, y découvre la vraie réponse à ses interrogations et à ses attentes. Déployez tous les efforts possibles pour accomplir cette mission. Vous entendez bien, voilà, trouver les moyens, tous les moyens les plus adaptés pour présenter et pratiquer le culte du cœur du Christ. Autrement dit, si la connaissance des sources directes, des sources historiques de l'expérience du cœur de Jésus sont indispensables, et c'est ce que nous faisons régulièrement en nous replongeant dans l'expérience directe de Marguerite Marie, de Claude la Colombière, en retrouvant leurs écrits directs, cela ne suffit pas. On ne peut pas rester simplement à la réception directe de ce qu'ils ont pu écrire à leur époque du XVIIe siècle. Il faut aussi se risquer en permanence dans un travail de traduction de cette expérience, pour la rendre aussi accessible à nos contemporains. Travail perpétuel de traduction trouver les mots d'aujourd'hui pour dire l'expérience non seulement d'hier, mais l'expérience toujours actuelle du cœur de Jésus. Bien, c'est justement le travail que font les poètes, les liturges, en se laissant travailler par les mots qui traversent leur propre corps, leur propre sensibilité, pour chercher à dire en permanence cette expérience transcendante de notre foi, cette expérience qui traverse tout le temps et qui pourtant ne cesse de se dire avec le mot, avec les mots de chaque génération. Et vous savez que c'est le rôle des hymnes liturgiques de nous porter ainsi dans la prière. Les hymnes liturgiques qui sont priés, qui sont le fruit de la prière de ses frères et sœurs liturges, souvent moines, moniales, et qui livrent le résultat de cette prière et de cette traversée dans leur propre corps, dans leur chair, des mots, des images, des saveurs, une musique pour aujourd'hui. Témoignage en cela du chemin d'incarnation qui se poursuit toujours dans le temps, qui vient jusqu'à saisir nos corps, notre intelligence, notre sensibilité et notre cœur en tant que lieu d'unification de notre personnalité, de notre identité profonde. Et voyez qu'il nous est donné alors de prendre le temps, de nous laisser approprier par ces hymnes, par ces compositions poétiques, se laisser porter par le jeu des saveurs, des couleurs, par les jeux des mots du langage, en se laissant toucher par les répétitivités, les permanences, les variations qui apparaissent dans telle ou telle composition de tel ou tel poème, pour se rendre attentif à frais nouveaux de ce qui est permanent et de ce qui se transforme, de ce qui crée du rythme, de ce qui progressivement nous laisse entendre à frais nouveaux la musique intérieure, la musique même de Dieu, la musique de la vie de Dieu au cœur de chacun, au cœur du monde. C'est à cela que s'est consacré donc notre compagnon Didier Rimaud pendant la totalité de sa vie de jésuite. Alors je vous donne juste quelques petits repères pour justement marquer ce chemin d'incarnation, d'où vient-il, et quelques éléments de sa vie. Il est intéressant dans l'itinéraire de figures spirituelles d'être attentif au moment de leur naissance et au moment de leur Pâques, de leur passage au ciel. Didier Rimaud est né un 6 août 1922, c'est-à-dire jour de la fête de la Transfiguration. Il est né dans une famille lyonnaise de bourgeoisie militaire, mais il est né en Bretagne, profondément breton, à Carnac. Il y en a d'autres parmi nous, je ne dirai pas lesquels, qui sont sensibles à cette dimension bien enracinée de la Bretagne. Mais rapidement, sa vie est traversée, sa vie d'enfance, par toutes sortes d'épreuves. Sa sœur aînée meurt à 18 ans. Deux de ses frères seront tués dans des conflits en Indochine, en Algérie. Rapidement, l'épreuve et la souffrance viennent marquer la vie de Didier Rimaud, bien avant même qu'il n'entre dans la compagnie de Jésus. Mais très tôt, il montrera des talents d'artiste, une sensibilité très forte, amoureux de la beauté et de la musique. Très tôt, il peindra des aquarelles, écrira des poèmes, sculptera le bois, collectionnera, dit-il, les coquillages, et passant du temps à improviser, au violon, au piano. Il entre dans la Compagnie de Jésus à 19 ans, un 15 octobre 1941. 15 octobre, ah, c'est pas très loin d'un 16 octobre. Il est ordonné le 30 juillet 1955, veille de la Saint-Ignace, date ordinaire pour des ordinations à cette époque-là, pour des jésuites. Mais il fera son troisième an, c'est-à-dire la clôture de sa formation, ce qui s'appelle justement l'école du cœur, à Parelmonial. Parelmonial qui était, dans les années encore 61-62, le lieu du troisième an, lieu de la formation ultime des jésuites. Vous savez, ce temps que vécut Claude Lacolombière juste avant d'arriver à Parelmonial. Eh bien, Didier Rimaud vivra cette école du cœur à Parelmonial, justement. Puis tout le reste de sa vie va être consacré donc au service de la liturgie pendant plus de 40 ans au Centre national de la pastorale liturgique. Et il va être de ceux qui va, dans cette période de concile et d'après-concile, sa plus grande contribution va être déjà de travailler à la traduction en français de tous les rituels liturgiques. Tous les rituels que nous utilisons encore aujourd'hui ont été traduits par Didier Rimaud et bien sûr d'autres, mais en particulier il a été essentiel dans ce travail. Il a travaillé aussi à la traduction des psaumes, les psaumes que nous chantons dans la liturgie, avec, dans le psautier, lorsque vous utilisez le psautier, vous savez, les oraisons adaptées à chaque psaume pour donner leur dimension christologique, eh bien ça a été l'œuvre, le travail fondamental de Didier Rimaud. Et puis le reste de ce temps, il l'a consacré à l'écriture, à la composition de toutes sortes d'hymnes, de chants liturgiques, de poèmes. Il est décédé un 24 décembre 2003. 24 décembre, nuit de Noël, fête de l'incarnation, mystère de l'incarnation. Voilà une vie donc qui a été traversée, vous voyez, par la transfiguration, mystère jusqu'au mystère de l'incarnation. Et tout au long de ses années de vie et de service, il le dit lui-même dans une interview à la fin de sa vie, « J'ai été continuellement interrogé par la passion du Christ dans l'humanité en souffrance. Contempler les traces de résurrection, les espérances dans la misère, c'est plus difficile. Mais la liturgie, justement, invite à célébrer la totalité du mystère du Christ jusqu'en sa dimension cosmique. Dimension cosmique. Nous qui sommes ici dans la chapelle des apparitions, eh bien, nous y sommes particulièrement sensibles, d'autant plus qu'il y a cette très belle fresque qui laisse entendre et nous laisse sentir cette dimension cosmique du rayonnement de l'amour de Dieu depuis son centre le plus intime, depuis son cœur. La liturgie, justement, invite à célébrer la totalité du mystère du Christ, sa dimension cosmique. On parle beaucoup de Jésus, de l'Évangile, mais le Christ vers lequel on va, ce Christ qui ne cesse de venir vers nous. Nous ne sommes qu'au début de la redécouverte de ce mystère du Christ. Il en manque encore souvent l'intelligence profonde, l'intelligence qui plonge au cœur. avant d'écouter et de lire quelques-unes de ces hymnes, écoutons simplement le témoignage qu'un de nos provinciaux, un responsable des jésuites de France de l'époque, au moment du décès de notre compagnon Didier Rimaud, a pu écrire. À la manière de Marie, le croyant dit et chante sa foi en laissant résonner en lui la parole qu'il a écoutée et méditée. Didier Rimaud a cet amour brûlant des Écritures qui ouvre la ténèbre à la lumière qui l'habite. Les yeux fixés sur le Christ et sur ce que nous livrent les Écritures, il laisse paraître celui dont la présence inaugure les temps nouveaux. Viennent les cieux nouveaux, vienne la terre nouvelle. Ce sera une des hymnes que composera Didier Rimaud justement, et justement, tout particulièrement, lors de la venue de Jean-Paul II ici à Paray-le-Monial en 1986. Le chantre de Dieu et de ses œuvres est aussi le poète à la sensibilité frémissante qui ne se lasse pas de dire la beauté du monde et la grandeur d'une vie humaine dans son irréductible singularité. Et il nous fait percevoir combien l'existence, nos existences quotidiennes, sont comme chargées d'infinitude. Les couleurs, les sons, les éléments et les saisons, l'infime et l'immense. Tout parle du Verbe silencieux qui vient frapper à la porte du cœur de l'homme pour y demeurer. Alors, poursuit notre provincial, en parlant de notre compagnon, alors il importe de ne pas craindre que l'Esprit donne et garde un cœur de chair à qui peut dire avec le psalmiste « Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. » Eh bien, ce sont ces mots qui ont traversé son cœur, un cœur attaché au Christ que nous allons écouter maintenant, découvrir et qui pourront, pour les auditeurs de Radio Espérance, ça sera un peu plus difficile, mais pour les pèlerins qui sont présents dans la chapelle, ils pourront, dans la suite de leur sainte, se laisser nourrir par ces mots qui sont présentes sur les feuilles qui vous ont été remises et qui nous laissent entendre cette expérience du cœur de Jésus pour aujourd'hui. Ainsi, dans cette première composition qui s'appelle « Avance en eau profonde », nous pouvons entendre comme un motif récurrent le travail permanent du Seigneur dans le lieu central de notre être qui est appelé à s'ouvrir sans crainte. N'aie donc pas peur, la voix du Seigneur murmure à ton cœur. Elle murmure à ton cœur d'avancer en eau profonde. Ça, c'est le petit noyau que nous allons entendre repris de manière répétitive dans cette première hymne. Et vous allez pouvoir vous attacher à ce qui est permanent, la reprise régulière d'une interpellation de l'Église tout entière. Église en travail du royaume, Église au service de l'homme, Église envoyée dans le monde. Là, le poète s'adresse à toute l'Église en tant que corps du Christ qui poursuit son œuvre dans le monde. Elle est appelée à une attitude, à une décision intérieure. Mets ta foi, ouvre-toi, livre-toi. Une ouverture vers un abandon toujours plus grand, pour une ouverture à l'universel. Je vous lis cet hymne. Église en travail du royaume, avance au large. Mets ta foi dans la parole du Christ. Tu peux compter sur sa puissance. N'aie donc pas peur, la voix du Seigneur murmure à ton cœur d'avancer en eau profonde, les yeux fixés sur l'Évangile. Église au service de l'homme, avance au large, ouvre-toi à qui t'appelle aujourd'hui. Réponds aux cris de cette terre. N'aie donc pas peur, la voix du Seigneur murmure à ton cœur d'avancer en eau profonde à la rencontre des plus pauvres. Église envoyée dans le monde, avance au large, livre-toi à la poussée de l'Esprit, toujours à l'œuvre au long des âges. N'aie donc pas peur, la voix du Seigneur murmure à ton cœur d'avancer en eau profonde. Peuple de Dieu, pour tous les peuples. Invitation donc à l'Église tout entière, dont nous faisons partie, donc invitation à chacun, chacune d'entre nous, de se laisser mettre en route vers l'horizon de tous les peuples, en se laissant enseigner par la voix du Seigneur qui vient justement parler, murmurer à ton cœur, et qui t'invite à l'aventure au grand large, à avancer en eau profonde. Deuxième hymne que nous pouvons écouter. La source qui jaillit. Là, nous allons pouvoir réentendre les réminiscences de l'expérience de l'Évangile, en particulier de l'Évangile de Jean en ses chapitres 7 et 19. Vous savez, le moment du grand cri de Jésus, qu'il vienne à moi celui qui a soif et qu'il boive. De son cœur jaillira la source d'eau vive. De même que quelques chapitres plus loin, au chapitre 19, l'expérience, la maintenant décisive du cœur transpercé de Jésus. Laissons les images qui vont être utilisées par le poète et qui nous disent la grandeur de la création, comment elle se révèle en fait et elle se découvre dans le mystère du cœur. Et comment elle nous introduit à une intercession plus large, une intercession large, où est proclamé l'amour débordant, l'amour qui déborde le mal. La source qui jaillit témoigne de la mer. La feuille dans le ciel témoigne de ses racines. La graine au cœur du fruit témoigne de la fleur. La sève de l'aubier témoigne du soleil. Il y a plus en vous qu'en toutes les forêts. Vous avez leur silence et leur monde secret. Ne cherchez pas ailleurs ce que le cœur enferme. Découvrez vos jardins, vos marais et vos îles. Mais cherchez-les très loin, comme font les racines. Très loin, dans les régions nocturnes de vous-même. Que pour chaque douleur se lève une tendresse. Qu'il y ait plus d'amour qu'il n'y a de misère. Qu'il y ait plus de paix qu'il n'y a de colère. Et bien plus de bonté qu'il n'y a de détresse. Vous avez entendu, voilà, dans ce jeu d'images qui nous font prendre conscience de la grandeur du cosmos et du mystère de la création, jusque dans la graine au cœur du fruit qui témoigne déjà de l'ensemble de la fleur, et bien comment ce monde immense se retrouve même au cœur de l'homme. Et la grandeur n'est pas à chercher ailleurs que dans ce que le cœur enferme, renferme, contient. Et cette invitation à cette plongée toujours plus profonde, cherchez-les très loin, comme font les racines, très loin dans les régions nocturnes. Autrement dit, tout doit être saisi, et dans le cœur, et par le cœur, tout est saisi, jusqu'aux profondeurs les plus obscures de notre être. Mais alors, dans cette expérience qui ne se dit pas là, de manière explicite, mais qui est bien présente, d'union au cœur de Jésus, alors il y a cette intercession pour l'ensemble de la création, marquée, défigurée par un mal, par une souffrance, par une douleur, et bien que l'amour qui jaillit de ce cœur vienne tous déborder et tout emporter. Troisième poème qui peut nous porter. Nous le trouvons sur la page suivante pour ceux qui ont les feuilles sous les yeux. Qui s'intitule « Désir de l'âme ». Désir de l'âme. Dans une première strophe, il y a comme un titre qui annonce toute une dynamique d'une progression, d'une rencontre qui va se mettre en route. Et puis ensuite, par quelques mots très brefs, à nouveau comme un grand zoom qui va s'opérer. À nouveau, nous allons passer des éléments du ciel. Ton arc dans le ciel, faisant même penser à l'arc en ciel, bien sûr. Nous allons aboutir dans le secret des cœurs, où se trouve enfoui le mystère du nom de chacun. Ton nom sur mon cœur, mon nom dans le tien. Expérience d'une réciprocité, d'un cœur à cœur, d'amitié. Une union. Puis, le poème se déroulant, nous trouverons comme au centre de l'affiche, au centre de ce poème, le cœur qui se dit « Mon trésor sera là où sera mon cœur ». Le cœur de l'homme, lieu de son trésor. Et à nouveau, dans un échange entre un tu et un je, circulation d'un amour qui crée, d'un amour qui me constitue et dans lequel je suis invité et je me découvre participant, puisque à la toute fin du poème, dans les trois dernières lignes, nous entendrons « Et moi, je te fais sourire ». Je participe à ce mystère de Dieu en le rendant par ma chair présent au monde. Je te fais sourire. Je te constitue sourire par mon humanité, traversée par le souffle de ta vie. Laissons ces images venir nous visiter. Laissons-nous emporter par elles dans ce qu'elles peuvent nous dire peut-être ce soir et révéler du désir de notre âme. Vers ton nom, vers la mémoire de toi, va le désir de l'âme. Tu as écrit ton arc dans le ciel, ta loi sur la pierre, mon péché sur le sable, ton nom sur mon cœur et mon nom dans le tien. Dans ta main, mon péché, comme un flocon de neige dans le feu. Mon trésor sera là où sera mon cœur. Même en la nuit, tout est lumière. Tout n'est que feu en plein hiver. Même en tristesse, tout est joie. Tu as fait le vent, la mer et les sources. Tu as fait la nuit, le jour et l'aurore. Tu as fait mes mains, mon cœur et mes larmes. Et moi, je te fais sourire. Par ce poème, par cette prière, nous sommes invités à répondre amour pour amour. De leur sainte, nous pouvons écouter à travers cet autre poème combien le poète nous fait entendre plus en profondeur dans l'accueil de l'écriture les mots mêmes que le Fils a pu prononcer à son Père. Ainsi, dans « Mon Dieu et mon Père » que nous avons sur la première page, nous entrons dans l'intimité du cœur de Jésus. Alors que l'Écriture, que l'Évangile nous dit que Jésus a pris ce temps décisif en solitude à Gethsémani à prier son Père, qu'il nous l'a laissé entendre quelques mots de cette prière. Ainsi, le poète, touché par l'intimité avec Jésus, nous laisse entendre d'autres mots que Jésus a pu s'adresser à son Père. Et dans ces mots, nous ne faisons que réentendre aussi les harmoniques de la prière de Jésus en Jean 17, particulier et de cette transformation qu'il opère en se livrant totalement pour nous. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. C'est-à-dire, avec la donation du Seigneur, il nous dit combien nous devenons son propre corps. Alors nous pouvons entendre cette prière de Jésus à son Père, de prendre soin de son corps, de prendre soin de chacun de nous, membres de ce corps. Dans cette prière que nous allons entendre, il y a comme cette introduction à la grande offrande eucharistique que nous célébrons dans chaque Eucharistie, justement. Notamment avec cet aboutissement de la doxologie à la fin de la prière eucharistique. Par lui, avec lui et en lui. Entrer dans cette unification totale avec Jésus, qui nous a livré son corps pour que nous devenions son propre corps. Laissons les mots du poète venir, encore une fois, nous nourrir et nous disposer de cette heure sainte qui justement approche. Mon Dieu et mon Père, ne sois pas étonné de ma prière et que je la fasse à haute voix devant ceux que tu m'as donnés. Je veux qu'ils m'entendent te parler pour qu'ils revêtent mes sentiments. Père, s'il est possible, qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Rappelle-toi, Père, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, alors tu m'as ouvert mes oreilles. Tu m'as donné un corps et j'ai dit, voici, je viens. Je viens pour accomplir ce que tu veux que je fasse. Ce corps que tu m'as donné, je l'ai remis avec mon esprit, en le livrant aux mains de mes frères, pour te rendre grâce. Et ils sont devenus les os de mes os et la chair de ma chair. Mon corps, désormais, dont je ne serai jamais séparé. C'est pour ce grand corps de mon humanité et chacune des cellules qui le composent que je te supplie maintenant. Je ne te demande pas de le soustraire à la violence du monde, mais de le garder du mensonge, de le garder en ton nom. Sanctifie-le par la vérité, puisque c'est pour lui que la croix m'a sanctifié. Qu'il prenne ses appuis sur la parole que je lui ai donnée, qu'il la proclame avec assurance, dans les épreuves, qu'ils défendent partout la justice de ton royaume, sans jamais s'allier à des pouvoirs corrompus. Qu'ils soient au service du pauvre et du faible et témoignent toujours de ta miséricorde. Qu'ils consentent sans réserve à la vie que ton amour lui prodigue en abondance. Qu'il parvienne à son unité parfaite pour que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu l'aimes comme tu m'aimes. Réponds-lui comme tu m'as répondu au matin de Pâques. Tu m'as fait reprendre pied sur le roc, tu as raffermi mes pas. Agis pour lui, comme tu as agi pour moi, qu'il n'ait plus rien à craindre de la mort. Avec cette prière de Jésus, transmise par un frère, un compagnon de Jésus, eh bien nous nous apprêtons à entrer dans cette veille avec Jésus, dans la passion de Jésus. Nous qui réentendons avec cette prière combien, oui, comme Marguerite Marie et Claude Lacolombière l'ont vécu en cette chapelle même, notamment lors de la vision dite des trois cœurs par Marguerite Marie, cette transformation à l'intime qui s'opère par le mystère eucharistique, où nous devenons nous-mêmes le corps du Seigneur. Jésus, parlant à son Père de son corps, lui parle de chacun de nous. Préparons-nous à parler avec lui, à notre Père qui est dans les cieux, en cette heure maintenant qui est advenue, l'heure sainte. Ceux qui ont les feuilles avec eux pourront se laisser porter, voilà, au long de cette heure sainte, avec la méditation de l'Évangile que nous allons, qui va rythmer notre heure de présence. Pour les autres, les auditeurs, vous pourrez trouver, avec d'autres recherches, retrouver ces hymnes, ces poèmes de ce compagnon de Jésus qu'a été et qu'est toujours Didier Rimaud. Préparons-nous à vivre maintenant l'heure sainte.